Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Salut à tous, c'est Popcorn et Banjo, la seule émission de cinéma qui diffuse exclusivement de la musique country. Popcorn et Banjo s'inscrit dans le créneau Vive le cinéma de Allegre FM 93.1. À ma gauche, Charles Lemoine, superviseur musical, journaliste et photographe. Salut Charles.
Salut Thomas.
Et moi-même, Thomas Révoy, réalisateur, journaliste et photographe. Comme vous le savez peut-être déjà, nous sommes tous les deux cinéphiles et nous croyons autant dans le support physique que dans le dématérialisé. Dans cette émission, nous reviendrons d'abord sur les films qui nous ont touchés ce mois d'avril 2025. Black Bag, Daffy et Porky sauvent le monde, Horns et Evil Dead 2. Et puis, avec la pause musicale country, nous écouterons Will Warden et Julian Baker et Torres. Puis, en troisième partie d'émission, nous prendrons le temps de revenir sur un cinéaste fort et méconnu, le très sympathique Lewis Teague, et nous parlerons donc de la sortie physique dans la collection Make My Day du très étonnant Fighting Back. Et puis nous parlerons aussi de d'autres de ces films. Popcorn et Banjo, la 7ème, c'est sur Allegre FM 93.1 et c'est parti.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Alors, Charles, tu veux nous parler un petit peu des films que tu as vus au cinéma ce mois-ci. On t'écoute.
Eh bien, écoute, je crois que tu l'as vu aussi, mais moi, j'ai beaucoup aimé le dernier Soderbergh qui est sorti, qui s'appelle du coup Black Bag, The Insider en français, qui est sorti au cinéma le 12 mars dernier et qui est toujours en salle, et qui raconte en fait l'histoire d'un couple d'agents secrets. Et on pense que l'un d'eux est soupçonné d'être une taupe. Comme le film qu'il a sorti il y a quelques mois qui s'appelait Présence, Soderbergh joue encore un peu plus avec les codes du genre. Alors dans Présence, c'était sur les fantômes et presque le cinéma fantastique, on va dire. Et là, c'est plutôt le côté thriller est quasiment oublié,
ouais,
au profit de l'histoire d'amour qu'il y a entre Fassbender et Kate Blanchett. Et du coup, on arrive avec une histoire donc d'agents secrets qui leur métier c'est de mentir, leur devoir c'est de trahir. Ils peuvent décortiquer ta vie, ils peuvent décortiquer la vie de l'un de l'autre comme ils veulent. Et en même temps, il y a qu'un truc qu'ils n'arrivent pas à savoir, c'est est-ce qu'ils sont amoureux ou pas, quoi. Il y a un truc très très fort.
Tu penses qu'ils le savent pas entre eux, ça? C'est vrai que c'est au centre, leur relation amoureuse est au centre du film, mais tu penses qu'ils ont pas forcément conscience de ce qu'ils ont, de ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre?
Je pense que en fait c'est un peu le dernier carcan en fait. C'est-à-dire que le mec, tout le monde peut savoir où t'es à n'importe quel moment. Il y a les satellites, il y a les machins, il y a les poses de micro. Enfin, en fait, il y a aucun secret. Tu ne peux avoir aucun secret pour l'autre finalement. C'est ça qui est terrifiant, c'est. Là où normalement tu peux avoir toujours le doute, est-ce qu'il me trompe, est-ce qu'il me trompe pas, est-ce qu'il y a un truc qui va pas, on ne sait jamais. Eux, ils peuvent tout savoir. Et le seul truc, le dernier bastion un peu qu'ils n'arrivent pas à décortiquer, à attaquer, bah, c'est en fait, est-ce que cette personne m'aime vraiment, quoi.
Est-ce qu'ils sont sincères dans leur amour?
Est-ce qu'ils sont sincères dans leur amour, exactement. Et je trouve que là-dessus, le film, du coup, en devient brillant, sincèrement, parce qu'en une heure et demie, il arrive à décortiquer, en fait, vraiment un couple, et en fait, qu'est-ce qu'on partage dans un couple, et qu'est-ce que l'amour dans un couple, tout en parlant d'une espèce d'attaque terroriste, ou d'empêcher une attaque terroriste, et c'est vraiment, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé.
Ouais, mais en vrai, c'est intéressant, j'aime bien ta vision. Après, c'est vrai que je la trouve un peu... moi, peut-être que dans ce cas-là, je m'attendais plus à un film d'espionnage, mais moi, j'avoue que j'y ai vu un film un peu nombriliste où Soderbergh parle de sexualité, d'ailleurs, de manière assez primaire, et ne parle que de ça, et se plaît dans une écriture un peu provoque, mais en fin de compte, qui va jamais très loin. Et c'est vrai que moi, au contraire, j'ai été un peu déçu. Il y a une scène que j'aime vraiment, vraiment bien, qui est la scène du polygraphe, que je trouve plutôt très réussie. Évidemment, en revanche, c'est vraiment très, très bien joué. Mais c'est vrai que je suis passé un peu à côté de ce que tu dis. Après, bon, je crois de mémoire que toi, t'es plutôt quelqu'un qui n'est pas très attaché aux films d'espionnage, ça te fait un peu, ça t'emmerde un
ça
peu.
Ça m'emmerde un peu, ouais.
Et moi, c'est plutôt l'inverse. Donc, je pense aussi que c'est intéressant, ça se joue là. C'est peut-être un film à voir quand on. Enfin, moi, je pensais un peu voir La Taupe, tu vois, revue par Soderbergh. Et en fait, oui, il y a un côté. Il y a un côté film romantique et je trouve ça très très bavard et très répétitif. C'est-à-dire, c'est des scènes de dîner des scènes de psychanalyse, quoi, globalement.
Eh ben c'est presque un huis clos, en fait. C'est presque du théâtre à ce niveau-là. Alors que normalement, il y a une menace globale. C'est ça qui est marrant, je trouve. Il y a une menace globale et mondiale. Et en fait, tout se joue dans un salon et dans
le
cabinet du psy.
Il y a presque un côté film fauché avec un casting de film dont tu sais forcément qu'il ne peut pas être fauché, quoi.
Ouais,
mais il y a un côté, tu vois ce que je veux dire, un peu ou pas, qui est très étonnant, quoi. Ça pourrait être un premier long d'un étudiant à NYU qui essaye de raconter une histoire, mais qui n'a que deux décors, quoi.
Ouais, mais en quand même assez quali, quoi. La mise en scène est quand même assez forte et
oui,
tout.
Oui,
et...
en revanche, c'est très beau.
Mais c'est vrai que je crois que le film, il a coûté 40 millions. Et
ouais,
je pense
ça.
Que ça a été siphonné dans les acteurs. Ouais, parce que vraiment, c'est pas les deux décors, même s'ils sont très beaux, qui font le truc, quoi.
Ouais, c'est clair.
Mais c'est vrai que moi, j'ai trouvé ça vraiment... Mais justement, tout le côté très bavard, c'est ça que j'ai bien aimé aussi. Parce qu'en fait, c'est... En fait, tous les protagonistes que tu vois, qui sont tous des espions, et donc... Il y en a un qui est potentiellement la taupe de l'histoire. Ils sont tous plus ou moins en couple, les uns avec les autres.
Ouais.
Ils ont tous plus ou moins des relations. Et comme tout le monde se ment, et il n'y a que ce couple vraiment de Fassbender et Blanchett qui sont solides, qui tiennent depuis très longtemps.
Qui sont en apparence. On n'est pas,
exactement.
On est jamais tout à fait sûr.
On n'est jamais sûr. C'est ça, et c'est ça qui est super.
Ouais, c'est vrai.
C'est qu'on a vraiment plein de couples différents et tout le monde potentiellement se trompe dans tous les sens et de façon personnelle ou professionnelle, ça dépend aussi comment on voit les trucs. Et je trouve que Soderbergh arrive du coup très bien à décortiquer les relations dans ce film et vraiment les relations de couple. Et du coup, c'est vrai que c'est très bizarre de voir un film d'espionnage, mais sans l'espionnage.
Ouais, ouais, ouais.
Et je trouve ça...
Et d'ailleurs, une des seules scènes d'espionnage, on va pas tout spoiler, mais c'est une scène qui concerne... c'est une scène qui concerne la vie intime, quoi, en fait.
Ouais,
la seule vraie scène de mise en scène d'espionnage.
Ouais.
Et d'ailleurs, pour le coup, je la trouve excellente. Après, moi, visuellement, je trouve pas dingue le film, mais bon, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve pas au niveau des grands Soderbergh. Mais bon moi, je suis passé peut-être un peu à côté, mais... J'aime bien la lecture que tu en fais. Tu voulais nous parler d'un autre film aussi, qui est le film des Looney Tunes, et on connaît ton amour, bon, peut-être que les auditeurs ne le connaissent pas, mais en tout cas, moi, je connais ton amour des Looney Tunes.
Bah oui, écoute, là, il est sorti en février, vraiment, en catimini, vraiment, il a été diffusé nulle part, et j'ai eu l'occasion de le voir, et bon, après, ça reste à Looney Tunes, c'est-à-dire qu'on sait dans là où on met les pieds, quoi. Mais c'est, pour moi, ça fait partie de ces films qui ont, et puis de ces personnages qui ont tellement bercé mon enfance que ça reste assez important pour moi. Et la comédie, ce genre de comédie, j'ai l'impression passe beaucoup moins qu'avant au cinéma. Cette espèce de slapstick un peu absurde dans les dessins animés maintenant, quand tu regardes de toute façon les Pixar, les Disney, les DreamWorks, quand même, bon, c'est très bien, hein, y a beaucoup d'émotions, c'est peut-être aussi un peu plus intelligemment écrit à sa manière, quoi, on va dire. Les dessins animés modernes sont un peu moins dans ce truc absurde où ça frappe partout, où on essaie de protéger la Terre en faisant des bulles de chewing-gum et...
Ouais, le côté un peu de Tex Avery, quoi.
Ah bah complètement, de toute façon, on est vraiment dans... Oui, tu sens que ça a été modernisé, quoi.
Mais c'est respecté quand même, cette espèce d'identité grotesque.
Eh bien, étonnamment, je trouve que c'est plus respecté que par le passé dans les dessins animés même qu'il y a pu avoir à la télévision, où j'ai l'impression qu'ils arrivent à retrouver une certaine saveur... un peu pas vieillotte mais un peu
d'époque,
ouais, un peu originel, quoi, le truc. Et tout en ayant quand même certains gimmicks de mise en scène vraiment vraiment très cool. Il y a Porky et Daffy, donc ce sont deux frères qui doivent finalement essayer de sauver la Terre d'une attaque extraterrestre, qui rappelle vachement en plus certains films en anglais. Le titre c'est un peu comme Le jour où la Terre s'arrêta de Robert Wise.
Okay.
C'est, je crois, Le jour où la Terre éclata.
Okay.
Et du coup, il y a plein de références à des vieux films des années 50, des films extraterrestres, etc. Donc il y a quand même une espèce... On sent une espèce d'envie cinéphile.
The day the earth blew up, a Looney Tunes movie.
Exactement. Donc qui est vraiment un clin d'œil à le jour où la Terre s'arrêta. Et vraiment, oui, il y a des gimmicks que je trouve très chouettes. Donc Porky et Daffy, ce sont des frères... deux frangins. Et le papa, qui est une espèce de fermier, en fait, il ne bouge jamais. Il est vraiment, c'est le fermier ricain, la grosse barbe, la chemise à carreaux, hyper costaud. Il y a juste ses lèvres qui bougent, comme une espèce, comme si c'était, tu sais, un peu le dessin suranné, tu sais, des beaux paysans américains.
Ouais.
Et il y a juste la bouche qui bouge en mode « Comment allez-vous, les amis ?» Et vraiment, il y a des espèces comme ça de petits éclairs de génie qui vraiment passent très bien. Puis après, on est en terre inconnue sur le côté humour des Looney Tunes. Je crois que ça a été écrit à... Je crois qu'il y a 10 personnes qui l'ont écrit, ce truc.
Mais en tout cas, le réalisateur, qui s'appelle Peter Braungartz,
ouais,
est quelqu'un qui est scénariste sur la série des Looney Tunes qui date des années 2020.
Ouais, qui est en fait déjà une espèce de grand hommage aux anciens Looney Tunes. Ça, c'est une série de HBO Max qui était sortie, ouais, qui est sortie il n'y a pas très longtemps.
2019-2024.
Ouais, qui reprend vraiment les anciens épisodes, en gros.
D'accord.
Il reprend pas, mais il reprend l'esprit et l'univers, même presque la DA des anciens épisodes.
Okay.
Parce qu'encore avant, il y avait des trucs genre le Looney Tunes Show, où c'était en gros Friends,
ouais,
mais avec les Looney Tunes.
Ah ouais, ok.
Donc ça change un peu la donne. Ils ont des téléphones portables, en fait, ils doivent travailler, ils ont des peines de cœur. Enfin, c'est... Donc ouais, on retourne vraiment dans un peu la substantifique moelle de ce qu'était les Looney Tunes, donc c'est toujours chouette à regarder.
Ok, trop bien.
Et toi, Thomas, toi, t'as vu que des vieux films, toi?
Bah ouais, alors moi, j'ai pas vu beaucoup de films ces derniers jours, mais j'en ai quand même découvert un et revu un. Alors d'abord, je voudrais dire quelques mots sur Horns, le film de Alexandre Aja, qui est sorti en 2013, et avec Daniel Radcliffe, hein, dans un rôle à contre-emploi très, très intéressant. Ça fait très longtemps que je veux le voir. C'est un film qui a une réputation inégale. C'est un film qui a été complètement détruit avant même sa sortie, hein, parce qu'il est sorti en streaming avant de sortir en salle. C'était une demande de Dimension Film. Donc il a été évidemment vu et revu par tout son public avant la sortie salle. Un film qui a eu un succès au box-office difficile. Moi j'y ai vu en tout cas un grand film romantique, un proche du romantisme français, hein, du 19e siècle. J'y ai vu une esthétique à la fois rétro et actuelle. Et d'ailleurs, le film est tourné parce qu'il y a une partie du film qui se passe dans la jeunesse des personnages et une partie qui se passe dans le temps présent de narrativement, hein, des personnages. Il y a une partie qui est tournée avec des optiques en cinémascope, avec des optiques, anamorphiques, et l'autre non anamorphique. Donc c'est vraiment intéressant esthétiquement, visuellement, c'est très très beau. C'est adapté du bouquin de Joe Hill, hein, qui est le fils de Stephen King.
Okay.
Je n'ai pas lu le livre, mais c'est vraiment une histoire étonnante. Hein, c'est Daniel Radcliffe qui joue le rôle d'un jeune vingtenaire qui un jour se réveille et sa copine a été violée et assassinée, et tout le monde est persuadé que c'est lui le tueur, et il y a un espèce de... Tout le monde le juge avant même son jugement, j'ai envie de dire. Hein, c'est lui qui l'a tué parce qu'on l'a vu s'embrouiller avec elle dans un bar la veille. Et en fait, du jour au lendemain, il va s'infliger une espèce d'auto-malédiction. Et puis, il va se réveiller avec des cornes de diable qui vont pousser sur son front. Et ces cornes vont lui donner le pouvoir dès qu'il est proche de quelqu'un, cette personne qui est à côté de lui se confie dans ses pensées les plus sombres. Elle lui dit tout sans filtre, de toutes les pires pensées qui la traversent. Et évidemment, il va comprendre que s'il veut trouver le tueur de l'amour de sa vie, en tout cas l'amour de sa jeunesse, son premier amour, mais qu'il faut en fait qu'il ait... qu'il embrace the devil, qu'il accepte qu'il est le diable et qu'il se serve de ce pouvoir. Et c'est un film qui est à la fois un film qui n'est pas un film d'horreur, qui est une comédie sombre, qui est un film plein d'idées. Il y a des inégalités évidemment, mais comme tous les films de Aja, il y a une vraie radicalité, une envie de dire quelque chose. Ça a été une vraie découverte pour moi. J'ai beaucoup aimé. J'étais très surpris jusque dans sa scène finale. Donc, je vous engage à le voir. Toi, je crois que tu l'as vu.
Moi, je l'ai vu, mais il y a très longtemps. Mais j'avais bien aimé. Mais je me rappelle que la dernière partie m'avait un peu déçu. J'ai l'impression que ça partait un peu pas en eau de boudin. Mais je crois que j'avais été assez déçu par la révélation finale parce que je me rappelle qui a fait quoi dans cette histoire. Et par contre, je me rappelle d'une séquence. Tu vas me redire. Est-ce qu'il n'y a pas un morceau de Nirvana qui est mis?
En tout cas, c'est sur la. Oui, il y a la jeunesse de Nirvana, et c'est amusant que tu parles de ça parce que pour le coup, l'enveloppe financière du film au niveau musical était colossale. C'est le premier film d'Aja où il y a vraiment énormément de budget qui est investi dans la musique. Et oui, ça en fait partie. Je sais plus si c'est du Nirvana parce que
je crois qu'il y a un morceau de Nirvana. Oui, et ça
quand il marche sur un pont, ouais, c'est Nirvana. Ouais,
et ça m'avait choqué. Je me suis dit. Comment il a pu avoir la thune parce que c'est quand même des. C'est un gros film ?
C'est cher. C'est un film qui est à peu près à 15 millions net, 19 millions bruts.
Ouais, mais du coup, c'est pas si énorme, tu vois.
Non, et mais il y a une grosse enveloppe. Il y a une grosse enveloppe musicale.
Mais moi, j'ai ce souvenir-là, en tout cas, de vraiment. La musique était vraiment, vraiment très cool. En tout cas, des choix assez pertinents, je trouve.
Ouais. Et puis, la compo musicale est d'un musicien qui s'appelle Rob, et moi, je la trouve aussi vraiment étonnante. Mais en tout cas, ouais, je t'engage à le revoir parce que je suis d'accord qu'à la fin, il se passe des choses qui sont peut-être un poil plus classiques, mais il faut voir plus loin et si tu le revois, focus sur Radcliffe et regarde toutes les expressions qu'il traverse quand il est dans sa transformation, etc. Je veux pas trop en dire, mais et en fait, c'est moi, en tout cas, j'étais assez touché et j'ai vraiment pris une claque, quoi.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Et donc Thomas, tu as aussi vu un deuxième film, encore plus vieux, j'ai envie de dire, mais est peut-être un tout petit peu plus barré encore.
Ah ouais, non, ça en revanche, c'est s'il y a vraiment un film vraiment barré à retenir, c'est celui-là. Alors je l'ai revu, hein, celui-là, je l'avais déjà vu, c'est Evil Dead 2, film de 87 de Sam Raimi. Alors j'ai eu la chance de le voir au Hall. Dans des conditions extraordinaires, sur un écran colossal avec un système sonore de dingue. Et voilà, bon, bah, force de la mise en scène, hein, la caméra, comme vous le savez peut-être, est un personnage, hein, un peu comme dans Le Suspiria, par exemple, de Argento. Et c'est vrai que moi, j'aime bien ces films. C'est Jean-Charles Takela qui m'avait dit, qu'un producteur lui avait dit « Jean-Charles, il y a les cinéastes chauds et les cinéastes froids ». Il y a ceux dont on voit la mise en scène et ceux dont la mise en scène est invisibilisée dans le film. Et bon, il avait aussi dit que les cinéastes chauds, ça se démodait et pas les cinéastes froids. À discuter. Mais en tout cas, là, clairement, Evil Dead 2, c'est un film de cinéaste chaud. La caméra est un personnage à part entière. Et bon, c'est vrai que c'est énorme, quoi. C'est un film qui est très libre dans sa forme, hein. Il y a du stop motion, du matte painting, du gore, du grotesque, de l'horreur pure. Voilà, grosse claque. J'y ai découvert. Ah, pardon, dis-moi.
Non, excuse-moi, je voulais pas te couper.
Non, hein. T'inquiète.
Mais c'est parce que, en fait, ça y est, moi, je suis parti sur les Looney Tunes. Donc, j'ai envie de dire que c'est vraiment, c'est pareil. Il y a du slapstick, du burlesque.
Complètement.
Il y a de la zinzinerie à tout va dans Le Evil Dead 2, plus que dans le 1. Mm. Et du coup, moi, je sais que c'est ça que j'adore, là, le moment où toutes les.
Les 40 premières minutes.
Ouais. C'est exceptionnel, quoi. Vraiment, il y a des moments. Où tu te dis, mais comment il a eu ces idées-là, la lampe qui se marre, le machin, tout, quand tout part en vrille, il y a la main qui
c'est
fait...
C'est exceptionnel, ça n'a pas pris une ride. Les 40 premières minutes n'ont pas pris une ride, c'est vrai. C'est très, très étonnant. J'y ai appris parce que il y avait une présentation très, très intéressante avant le film, et j'y ai appris que Barry Sonnenfeld avait été mêlé au projet. Et en fait, c'est vrai que ça se remarque, hein, notamment dans l'importance de la courte focale. Hein. Barry Sonnenfeld, l'homme derrière Men in Black, l'homme derrière la famille Adams.
Et Wild Wild West.
Et Wild Wild West, évidemment.
Je ne veux pas qu'on l'oublie.
Non, on n'oubliera pas, on n'oubliera pas. C'est vrai. Mais moi, je crois que toi aussi, j'ai une espèce quand même d'attachement à la DA notamment de ce film.
Non, mais je le kiffe, moi. Bon, moi, je suis très premier degré. Hein.
Et ben oui, j'ai appris qu'il était mêlé aussi au process. Et bon, évidemment, c'est le grand film de Sam Raimi, mais voilà, en tout cas, c'est un film qu'il faut absolument découvrir et qui est toujours un moment de jubilation. Et toute la salle était blindée de monde et tout le monde répondait, quoi. C'était très, très intéressant.
Ouais, ça doit être mortel à voir ça au cinéma.
Ouais, c'est vraiment assez étonnant. Bon, Charles, tu vas nous emmener un petit peu du côté des États-Unis avec la fameuse pause musicale country, hein, auquel vous avez commencé à avoir l'habitude. Et je te laisse nous présenter les artistes d'aujourd'hui.
Oui, bah, aujourd'hui, ça va être un peu différent de d'habitude, où normalement je vous présente des, quand même, on va dire, des vieux artistes, ou en tout cas des gens qui ont un peu roulé leur bosse. Là, aujourd'hui, je vais vous simplement vous faire écouter un peu les coups de cœur que j'ai eu dernièrement pour des artistes récents, des artistes modernes. Et donc le premier artiste que je vais vous présenter, alors on ne sait pas grand-chose de lui, j'ai essayé de chercher un peu sur Internet, mais il n'y a pas eu grand-chose. Je peux juste vous dire qu'il y a une page Instagram, donc c'est pas forcément intéressant. Mais par contre, je peux vous dire qu'il s'appelle Will Worden. Donc c'est un musicien originaire du Texas, et vous allez voir que sa musique est vraiment très empreinte de folk, et surtout forcément aussi de country. Mais il a un côté vraiment à l'ancienne, j'ai envie de dire. C'est assez étonnant. Là, on est vraiment dans, on va dire, on est dans nos petits chaussons, tu vois. Là,
Au coin du feu ou sous les étoiles.
exactement. Là, Will Worden, c'est vraiment, je pense que c'est la country que toi, tu connais assez bien, Thomas aussi. Même là, je suis en train de montrer à Thomas en même temps la pochette de l'album, et qui fait très 70. Donc, l'album s'appelle The Only One and All the Others, qui est sorti là en février 2025. Et la pochette, donc c'est Will Worden qui regarde un peu au loin, le fond est noir, il y a juste son visage qui est éclairé, il a une énorme stache mou, vraiment qui rappelle certains cow-boys de l'époque. Et donc le premier morceau que je vais vous faire écouter de lui, c'est The Only One, qui est le premier morceau de l'album en fait, qui rappelle vraiment, vraiment la country à l'ancienne. Yeah. venez d'écouter The Only One de Will Warden. Qu'en as-tu pensé, Thomas, alors ?
Ouais, j'adore. C'est très ancré dans une certaine musique que j'aime aussi, hein, qui est cette musique... je sais pas, tu vas me reprendre si j'ai une bêtise, mais des années 60-70 country, c'est très très attachant, quoi. La voix, les instruments, même le ton musical, un peu. Et voilà, moi je me vois à Big Ben dans une chaise longue ou assis dehors, comme on était, quoi, sous les étoiles et plongé dans nos pensées. Non, ouais, j'aime beaucoup.
Ça marche bien, hein. C'est assez étonnant. Parce que là, j'ai essayé d'écouter un peu, puis même là, vu qu'il y avait les Grammys, etc., il y a peu de temps, j'ai essayé d'écouter un peu ce qui sortait là, ouais, en ce moment. Et c'est vrai que la country moderne, il y a plein de choses que je trouve vraiment, enfin, j'ai vraiment l'impression que c'est un peu de la soupe, pour être honnête. Mais lui fait partie de vraiment des petites pépites, c'est son premier album. Alors c'est un peu à l'ancienne, donc du coup, encore une fois, je me sens bien là-dedans et c'est très cool. Mais vous allez voir que là, le deuxième morceau que je vais te faire écouter, Thomas, donc, qui est donc un super groupe formé par Julian Baker et Torres, donc Mackenzie Scott.
Ce sont deux femmes, je précise, parce que Julian Baker, ça fait très...
Oui, oui, c'est plus, ça s'écrit Julien, J-U... Enfin, Julien, quoi, comme vous... Voilà. Tout le monde sait l'écrire, je pense. Mais du coup, oui, là, vous allez voir, c'est vraiment country beaucoup plus moderne, qui, en fait, on va dire même... L'album est présenté vraiment comme une revisite de la musique country à travers une perspective queer. Donc là, on est vraiment dans... on décroche un peu des sentiailles et on va aller vers un terrain qui... en tout cas, que je ne connaissais moins en termes de texte et de style musical, on va dire. Mais Julian Baker est par ailleurs connu pour faire plutôt de la folk à la base. Torres, elle, c'est plutôt rock alternatif. Et elles ont décidé ensemble de faire cet album country.
D'accord, en fait c'est une collaboration.
C'est complètement, ouais. Là, normalement, elles ont voulu travailler ensemble. Enfin, elles ont toujours voulu travailler ensemble, en tout cas depuis 2015, je crois, 2016. Et elles ont enfin trouvé cet objet un peu bizarre pour assouvir leur soif d'art. Et là, le morceau que je vais vous faire écouter, donc sur l'album qui s'appelle Send a Prayer My Way, qui est sorti lui le 18 avril. Donc vraiment, il y a pas très longtemps. Et je vais vous faire écouter le morceau qui s'appelle Sylvia, qui parle pour le coup, je crois, du chien de Torres. Sylvia, my baby, I have got to go away. In the morning when you rise, I'll be halfway down the highway. Neither of my two minds can decide if I'm at home. On the road when I know the road ain't any kind of home. Sylvia, don't forget me. Sylvia, feel like I'm missing everything. So alone when I'm not with you, but I ache to see the world. What's it even mean to have everything if I can't share it with girl, haunted by all the good nights that I've missed. Every time your cheek goes unkissed, a day for me is a week for you, and my life's already halfway through. Tomorrow, today's worries might turn out to be regrets. Tomorrow, yesterday's glories will be a memory.
See?
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Voilà donc pour le deuxième morceau du jour. Donc là, c'est vraiment les petites nouveautés que j'ai choisies, que j'aimais vraiment beaucoup. Toi, t'en as pensé quoi du deuxième morceau?
Très cool, très tranquille, mais il y a un côté un peu plus pop.
Ah, c'est vraiment plus pop.
Ouais, mais ouais. C'est super, enfin, j'aime beaucoup.
Mais du coup, c'est vraiment là, on rentre vraiment dans une country un peu plus moderne, justement, qui s'éloigne, on va dire, des carcans de nous, ce qu'on aime, c'est-à-dire, ça peut être, en tout cas, ce que j'ai pu faire écouter aussi par le bluegrass, etc.
Ouais, puis avec des instruments qui sont très identifiables, comme le banjo, l'harmonica, qu'on n'entend pas forcément là.
Ouais, là, on est vraiment dans le vraiment la country rock moderne, on va dire. Mm. Donc, on est vraiment passé à autre chose.
Merci beaucoup pour ces découvertes.
Avec plaisir.
Et maintenant, on va parler d'un cinéaste que j'aime beaucoup et dont on parle peu, qui est assez méconnu, Lewis Teague, cinéaste vraiment important dans les années 80 et puis qui va tourner jusqu'aux années à peu près 2010, je crois, mais qui, on va dire, est important, vraiment important, dans les 5-6 premières années de sa carrière, 79-85. Là, c'est les grandes années de Lewis Teague. Alors, Lewis Teague, c'est un collègue de promo, un NYU, donc un étudiant NYU, collègue de Scorsese, promo Scorsese. C'est le premier de sa promo, si je dis pas de bêtises. C'est quelqu'un qui va être appelé pour travailler à la télévision, alors même qu'il n'a pas fini, en fait, ses études. Et donc, il va se retrouver sous la direction de Pollack, de George Roy Hill, pardon. Donc quand même des cinéastes extrêmement importants. Et puis, il va se former à leur côté, apprendre de ces gaillards, faire des épisodes de télé, et puis un premier long métrage, Dirty O'Neill, qu'il va co-réaliser en 70. C'est pas très clair d'ailleurs, j'ai du mal à comprendre, parce qu'on n'en parle pas souvent quand je lis sur Lewis Teague, et lui-même n'en parle pas. Donc j'ai du mal à comprendre si c'est vraiment un premier long métrage qu'il co-réalise, ou s'il est juste rattaché au projet parce qu'il est venu en backup, ou voilà, c'est pas très clair. Mais en gros, c'est un film de 74 complètement fauché. Parallèlement à ce film-là, il est monteur pour Roger Corman et la New World Picture, la société de production de Roger Corman. Il va monter un film de Jonathan Demme, un film de Monte Hellman. C'est un très très bon monteur. Il est réalisateur deuxième équipe sur des films comme La course à la mort de l'an 2000 de Paul Bartel. Évidemment, c'est quelque chose qui se verra ensuite dans son vrai premier long métrage, Du rouge pour un truand, dont on va parler. Et puis, dans les années 70, donc je fais un petit flashback, il est aussi, ça va t'intéresser toi Charles, il est directeur de post-production sur un documentaire qui s'appelle Woodstock, et qui est le documentaire qui a eu l'Oscar sur...
Voilà. T'as dû voir, je pense. Et monté par Scorsese, du coup.
Ok, je savais pas. Et au départ, il devait, si je dis pas de bêtises, il devait le produire. Et en fait, il était sur un autre film qui s'appelait Love, et donc c'est lui qui a... mis qui a sélectionné un ami à lui pour s'occuper de la prod, et ils ont eu l'Oscar en 70 du meilleur documentaire.
Ouais, c'est...
Tu l'as vu, le doc?
Ah ouais, je l'ai vu, ouais, ça dure bien 3 heures.
3 heures, ouais. Donc, premier vrai film symbolique, si vous intéressez à la carrière de Lewis Teague, premier vrai film important, c'est un film qui s'appelle The Lady in Red, en français Du rouge pour un truand, film de 1979 qui est disponible en Blu-ray dans une magnifique édition chez Carlotta Film. Et donc Charles, je vais te laisser nous présenter ce film-là.
Bien oui, alors Du rouge pour un truand, Lady in Red, donc comme tu l'as dit, est réalisé donc par Lewis Teague, dont on fait un petit focus aujourd'hui. Mais c'est aussi écrit par John Sayles, qui est un scénariste assez connu des cinéphiles, j'ai envie de dire un peu geek, parce que c'est lui qui a écrit par exemple Piranha, et Hurlement de Joe Dante. Hurlement, je trouve qu'il y a un super film de loup-garou par ailleurs.
Mais il faudrait que je le revoie. Moi, j'adore le début, mais j'aime pas trop la suite, quoi.
Je trouve qu'il y a un délire assez étonnant dans Hurlement qui est très bizarre, je suis d'accord, mais qui va un peu dans tous les sens.
Alors que l'ouverture est très sombre, et tu sais, dans le peep show, là.
Ouais, exactement.
Ça, c'est étonnant, quand même.
Ça, c'est très bizarre. Mais en tout cas, Piranha, qui est vraiment un petit film série B, et Hurlement, qui est quand même, en termes de transformation, est super, donc c'est lui qui l'a écrit. Et il a également écrit Alligator,
L'incroyable Alligator en français.
Toujours de Teague. Ou encore un film que je trouve assez mauvais, mais qui est culte pour certains, qui s'appelle À armes égales, ouais, de John Frankenheimer.
Qu'on a vu ensemble,
et qui était vraiment pas terrible.
Qui est très loin des deux Frankenheimer qu'on vous a chroniqué il y a quelques mois.
Seconds.
Et Black Sunday.
Ah ouais, c'est sûr que oui.
Là, on n'est pas au même level.
Tout le monde fait des erreurs. Et donc là, revenons un peu à notre sujet, donc du rouge pour un truand, où en fait nous allons suivre une jeune fille qui s'appelle Polly, qui est pleine de rêves et d'ambition. Elle a envie de danser à Broadway, mais elle vit dans une petite ville un peu perdue. Et elle vit avec un père violent et son père qui la frappe sans arrêt. Bah, elle en peut plus. Et elle décide de partir pour la grande ville, qui est Chicago. Et malheureusement, elle va un peu s'enfoncer dans les méandres de la ville et faire des mauvaises rencontres, jusqu'à sortir avec le célèbre brigand, j'ai envie de dire, pilleur de banque, John Dillinger. Donc c'est une vision assez rude, mais aussi assez rafraîchissante, du monde très masculin du gangster, puisque là, nous allons vraiment suivre le crime organisé, j'ai envie de dire, mais par la vision, et même par les visions de femmes dans ce film. Thomas, toi, qu'est-ce que tu en as pensé du coup
Moi, j'ai adoré. J'ai adoré Découverte. Je connaissais pas ce film-là. Bon, j'en avais déjà entendu parler, mais voilà. Pour moi, c'était peut-être plus un film mineur de Lewis Teague, et en fin de compte, c'est un film majeur du cinéaste. C'est un film extrêmement mature dans sa mise en scène, qui est très habité, incarné. Il y a une rapidité dans la manière dont narrativement le film se déroule. Les scènes s'enchaînent les unes avec les autres. Il n'y a pas de perte de temps, il n'y a pas de gras. C'est assez sidérant pour un premier long métrage. J'ai tendance à dire que souvent, comme on veut tout dire dans un premier film, forcément il y a des longueurs, ça fait partie un peu des défauts classiques du premier long. Et là, c'est très étonnant parce qu'on sent qu'il a envie de tout dire, de tout mettre, mais en même temps ça fonctionne et ça va vite, quoi. Alors je sais aussi que le scénario de John Sayles, qui est aussi romancier et réalisateur, en plus d'être scénariste, est considéré comme un extraordinaire scénario, à tel point que quand Lewis Teague l'a reçu, il a eu peur. Il s'est dit le matériel est de trop bonne qualité pour que j'en. Enfin, il avait peur d'abîmer le matériel. Donc le matériau. Donc peut-être que ça joue, mais en tout cas voilà, narrativement c'est très impressionnant. Il y a quelque chose de l'ordre de Raoul Walsh, quoi. Chaque plan sert l'histoire. Et puis j'adore ce personnage féminin. Je trouve qu'elle traverse des choses extrêmement difficiles. Mais Teague ne l'humilie jamais, en fait, avec son point de vue masculin, son regard de metteur en scène. Il respecte toujours son intégrité. Elle est toujours filmée avec sa fierté et respectée. Je trouve ça très touchant. Il y a des grandes scènes à la fois de mise en scène d'auteur et puis des scènes un peu plus d'exploitation. Et à chaque fois, Teague sort son épingle du jeu. Hein. C'est un film vraiment impressionnant. C'est aussi un film humaniste, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des scènes vraiment, vraiment très touchantes. Par exemple, l'actrice principale, c'est Pamela Sue-Martin. Hein. À un moment, elle, je sais pas si tu te rappelles, elle se prostitue pour son ami qui est encore en prison, pour que son ami ne se fasse pas maltraiter par la gardienne de prison. Pamela Sue-Martin se prostitue dans le civil et donne de l'argent à la gardienne de prison, tout en, quand elle va voir au parloir son amie, elle lui raconte qu'elle est devenue danseuse de musical, etc. Tout ça, c'est des choses de l'ordre de la caractérisation de personnage qui vraiment me touchent beaucoup. Et puis après, Dillinger, évidemment, personnage historique très intéressant. Je trouve que Robert Conrad est peut-être un tout petit peu en dessous. Je trouve qu'il n'a pas le charisme d'un Dillinger. Il y a Robert Foster qui est dans le film aussi. Et évidemment, quelque part, il vole un peu la vedette, je sais pas ce que t'en penses à Dillinger, mais en tout cas, énorme, vraiment énorme claque, et très très heureux que ce film existe en support physique. Enfin, tu veux ajouter des choses, j'imagine.
Non, bah après, je crois que je vais calmer un peu ton enthousiasme sur ce film, parce que plein d'humanisme, je crois sincèrement que c'est un très bon film d'exploitation. Un très bon premier film, vraiment, parce qu'en plus, comme tu disais, c'est produit par Roger Corman, et Roger Corman est donc un très grand producteur d'Hollywood, mais aussi connu pour être une énorme pince, et pour vraiment faire plein de films fauchés au cul du camion, etc. Et franchement, là, je trouve que ça ne se sent pas du tout, c'est un film quand même d'époque.
Ouais, c'est vrai.
Vraiment, on ne ressent à aucun moment la patte du producteur, quoi. C'est vraiment linguistique, elle arrive vraiment, c'est où je suis d'accord, à sortir son épingle du jeu techniquement.
Ouais, c'est très généreux visuellement.
Ouais. Et même en termes de scénario, je trouve ça vraiment très bien écrit, mais pour moi, je ne peux pas dire que j'ai ressenti beaucoup d'émotions quand même en regardant le film. J'ai pris un vrai plaisir de spectateur à le voir. Je pense que c'est, pour le coup, vraiment, ça fait partie des séries B que nous, on a envie de défendre. Et je pense que, parce qu'il a un scénario qui est très étonnant, dans le sens où on voit quand même relativement beaucoup, beaucoup de femmes. Donc on voit bien sûr, le personnage principal est une femme. Le premier contact qu'elle a avec la mafia et le monde du braquage, c'est une femme. Quand elle va en prison, c'est une prison pour femmes avec des gardiennes, qui sont aussi vicelardes que d'autres malfaiteurs finalement. Le bordel tenu par une femme. Donc en fait, Lewis Teague va nous présenter le monde du gangster, mais tenu essentiellement quand même par le féminin.
Ouais, c'est une inversion étonnante de ce qu'on a l'habitude de voir.
Exactement. Alors je sais pas à quel point, je pense qu'il y a aujourd'hui ce qu'on pourrait appeler du male gaze un peu partout, certainement, mais ça reste vraiment rafraîchissant, je trouve, de nous présenter tous ces personnages-là, qui sont à la fois, certains en tout cas sont éminemment sympathiques, d'autres sont un peu plus paumés, comme le personnage principal qui en fait navigue un peu en eau trouble et en fait elle fait ce qu'elle doit faire, donc en fait elle va à droite à gauche, alors que par exemple son amie qu'elle rencontre dans l'usine de textile, elle va à un caractère un peu plus puissant, elle est un peu plus je sais pas si on peut dire chevronnée, mais bon, elle se laisse un peu moins écraser, quoi. Et on va avoir donc aussi des femmes qui sont vraiment, qui font partie de la gardienne de prison, qui a en fait une énorme ordure finie. La femme qui s'occupe d'un bordel, qui elle est assez douce, mais qui a aussi avec certaines complexités en elle.
Grande actrice, hein, elle jouait la chef des infirmières dans Vol au-dessus d'un nid de coucou.
Ah oui, c'est vrai que c'est elle, ouais. Exactement. Donc en fait, il y a là où je suis d'accord, c'est qu'il y a une galerie de personnages et il y a des choses qui fonctionne très bien, qui me plaisent beaucoup, qui peuvent être touchantes, certainement, en tout cas plus pour toi, j'ai l'impression, mais qui pour moi restent un peu en surface. Donc je passe un très bon moment avec ce film, mais je ne dirais pas que...
Ça vient pas te chercher dans tes tripes.
Ça m'a pas bouleversé non plus, quoi. Ouais, ouais. Mais par contre, vraiment, je pense que ça fait partie des Blu-ray que j'aimerais bien avoir, certainement dans ma collection.
Non, mais en tout cas, moi, juste pour rebondir sur ce que tu dis sur le male gaze, c'est ça que je trouve important dans le film. Je peux l'entendre qu'il y a évidemment du male gaze, notamment dans le rapport au second rôle. En revanche, la manière dont Pamela Sous-Martin est filmée et mise en scène, moi je trouve que c'est là où je trouve que c'est aussi un grand film. C'est un très joli portrait de femme et je la sens pas objectivisée, c'est vrai. Je ne sens pas un regard sur elle de femme objet, au contraire, je la sens extrêmement filmée avec pudeur et fierté, et je trouve qu'elle est protégée dans cette intégrité, et ça je trouve ça très très joli de la part de Teague. Deuxième film qui est disponible en support physique qui sort le 26 avril prochain en Blu-ray et DVD dans la collection Make My Day, qui est aussi évidemment un film de Lewis Teague. Il s'agit de Fighting Back, Philadelphia Security en français, mais il sort, ils ont gardé le titre original Fighting Back. Film de 1982, hein. Qu'est-ce que c'est ? Alors, Fighting Back, ça appartient au Vigilante Movie, le film d'autodéfense. C'est un film qui est en queue de comète un peu du genre, parce que les grandes années de ce genre, c'est les années 60-70, même si c'est un genre qui est héritier direct du western, hein, donc qui existe presque depuis le début du cinéma. Hein. Le grand film de Vigilante en termes de succès, c'est un film de 74, Injusticier dans la ville, Death Wish en anglais, de Michael Winner, les droits et la production étaient produits par Dino De Laurentiis. C'est intéressant parce que Dino De Laurentiis va vendre les droits de Death Wish alors que le film est un succès phénoménal, hein, je ne sais pas très bien, j'ai cherché, je n'ai pas de raison de pourquoi il a fait ça.
La thune.
Ben ouais, mais il s'en est mordu les doigts, puisque au moment où le deuxième Death Wish s'est mis en production par la Canon en 82, qu'est-ce que fait Dino De Laurentiis ? Eh ben, il produit Fighting Back. Donc il se dit mince, il produit Fighting Back avec quand même un acteur qui a la même gueule que Bronson, la même moustache, et la même coupe de cheveux.
C'est le Bronson de Wish, quoi.
C'est le Bronson du pauvre, hein, Tom Skerritt, second rôle très important dans Alien, etc. Et donc il se lance dans la production de ce film.
Il joue dans Alien ?
Bien sûr, Tom Skerritt, il joue dans Alien.
Il joue qui ?
Ne me demande pas qui c'est. Tu regarderas sur IMDb.
Il joue le capitaine ouais. Barbu, là ?
Ouais, je crois.
Mais non.
Il joue dans Alien.
Mais ça veut dire qu'il y a deux mecs qui jouent dans Alien ?
Exactement.
Il y a aussi le...
Exactement.
Ah, ok, marrant.
C'est une des particularités du film. Ils sont ennemis dans le film, mais amis dans Alien. Film... Alors, là où c'est intéressant, c'est que le Vigilante Movie, hein, dans les années 70, c'est beaucoup des films de personnages, un personnage fort, qui, notamment dans Death Wish, hein, c'est un architecte qui vit en haut des tours, hein, là où il y a de l'argent, et qui descend en bas, dans le tréfonds des rues, pour se venger. Ben là, c'est un film de groupe, hein, parce qu'on n'a pas de top star, donc on utilise un groupe, un peu comme le Vigilante, d'ailleurs, de Bill Lustig, hein, et on se met à hauteur d'une population plus moyenne, milieu modeste. Hein. Voilà, c'est donc des Italo-Américains qui prennent en charge la défense de leur quartier. C'est inspiré d'un homme qui a existé, Anthony Imperial, qui a créé une milice à Newark pour protéger les Italo-Américains. C'était un personnage qui était raciste et qui est devenu politicien ensuite. Et d'ailleurs, il fait un caméo sous forme d'image d'archives dans le film. Voilà, comment présenter le film avant que tu te lances dedans, très très rapidement. Bah, c'est un film de Vigilante Movie, on agresse une famille, et puis le père de la famille décide de se défendre, et pour se défendre, il fait appel au voisinage, et on crée un service d'autodéfense. À toi, la parole.
Vous écoutez Allegre FM 93.1.
Eh bien écoute, honnêtement, j'ai beaucoup aimé Lady in Red, et je crois que j'ai aussi beaucoup aimé ce film-là, qui effectivement change un peu de... Parce que moi, je pense pas être un expert en Vigilante Movie, j'avoue. Moi, j'ai un très bon souvenir du Charles Bronson et de Death Wish, mais parce que ça m'a profondément choqué. Faut savoir que Death Wish, donc, c'est effectivement l'histoire d'un architecte qui, en fait, n'aime pas la violence et qui finalement va tuer mais tellement de personnes, et le problème du film c'est que les flics sont avec lui, la population est avec lui, et donc en fait c'est un film de vigilante qui est complètement fou et complètement de droite, mais la droite vraiment vénère, quoi, c'est-à-dire on va s'armer, on va tuer tout le monde, enfin tous ceux qui théoriquement le méritent en tout cas, et donc il y a quelque chose qui fait vraiment froid dans le dos dans Death Wish. Là, dans Fighting Back, il y a une bipolarité qui est très forte, et je pense sincèrement qu'il doit y avoir un problème de scénario ou un problème de producteur, qui, je pense que De Laurentiis, c'est, j'ai pas regardé, j'avoue, mais en tout cas ça, je trouve que ça se ressent vraiment dans la structure même du film, qui a eu des désaccords sur qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on va dire de ce personnage là du personnage principal qu'on va appeler Charles Bronson du Wish. Parce que, vraiment, il y a des séquences où on sent qu'on est 100% avec lui, qu'on est d'accord avec ce qu'il dit. En tout cas, on le présente comme un héros. Et d'autres séquences où, vraiment, on le dit clairement que c'est un gros raciste, que, en fait, tous les mecs qui fliquent et qui tabassent, c'est quand même des Noirs. Que c'est vraiment un facho, quoi. Et donc, en fait, il y a vraiment... On te tiraille en disant, mais attendez, où est-ce que vous voulez en venir, du coup, avec ce film ? Parce que vraiment, il y a des ratonnades, et il y a en même temps... on dit que c'est bien, on dit que c'est pas bien, il y a des gens... Et il y a une espèce de truc bipolaire, schizophrène, et je sais pas trop où me foutre par rapport à ça, et je crois que c'est aussi ce que j'ai aimé dans ce film. Alors, du coup, ça donne un film un tout petit peu fouillis, qui est très bien écrit par ailleurs, hein, mais qui est un petit peu fouillis dans sa caractérisation de personnage, mais qui, en même temps, je trouve, arrive à te faire poser des questions... Et à te mettre un peu mal à l'aise vis-à-vis de toi, ce que tu es en train de regarder. Il y a vraiment, je trouve, ce truc-là dans le film.
C'est intéressant parce que tu dis, tu commences en disant « Je ne suis pas un spécialiste du Vigilante Movie » et justement, il y a, je précise, dans les bonus du DVD Blu-ray, Il y a une présentation du film par Yal Sadat, qui est donc un journaliste au Cahier du cinéma et qui a écrit le livre référence, un des livres références sur le Vigilante Movie, qui s'appelle Vigilante, je crois. Il y avait un autre livre écrit par Fatih Bediar, qui est aussi un livre référence sur le sujet. Et justement, il parle de ce que tu dis. Alors, lui, en revanche, il considère que Lewis-Tig a beaucoup de recul sur le sujet, et c'est assez intéressant. Et il dit que... notamment dans son rapport aux images violentes. Et c'est vrai que le film commence par un montage publicitaire ou de journalistes qui montent un reportage sur la violence et qui donc tout de suite mettent un angle, en fait, ils anglent subjectivement des images violentes. Et tout ce rapport aux images et le décalage de comment on interprète ces images, j'ai un peu le sentiment que c'est peut-être ce que tu ressens toi en voyant le film, et c'est ça qui m'intéresse. Et ben, c'est quelque chose que Tig, en tout cas, il essaye d'exprimer dans le film. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est aussi un film d'exploitation. Il y a quand même des scènes purement exploitation. Mais c'est aussi, comme le film du Vigilante est un genre extrêmement controversé, justement pour ce que tu dis, beaucoup affilié à des idées d'extrême droite, d'autodéfense, etc.
En tout cas, bien à droite, en tout cas.
Voilà, en tout cas, bien à droite.
Extrême droite, je ne sais pas, mais bon.
Et puis c'est un genre problématique parce que souvent, c'est aussi un genre jubilatoire. C'est tout le problème, c'est que ça dit des choses très limite et c'est jubilatoire. Ben, ce film-là, il propose un peu un autre regard que je trouve intéressant. Et je me suis permis de sur mon temps libre, d'aller questionner Lewis-Tig. Et je lui ai demandé ce qu'il pensait de ce genre. Et il m'a dit que lui, il croit complètement pouvoir avoir il sait qu'il peut avoir de l'empathie pour les victimes et il comprend le sentiment de vengeance. C'est quelque chose qu'il comprend très, très, très premier degré. En revanche, il croit dur comme fer dans une société de droit et d'ordre. Et il m'a aussi expliqué qu'il avait voulu faire ce film, notamment parce qu'il s'était inspiré de ce personnage qui a existé et notamment parce que c'était un personnage avec des idées racistes et qu'il voulait montrer aussi la part sombre du Vigilante Movie. Et je sais pas si tu te souviens cette scène qui est dingue il y a vraiment une guerre entre les Italo-Américains et les Afro-Américains et puis à un moment il y a le chef du gang afro-américain qui arrête 2-3 malfrats, je crois qu'il y a un blanc, un noir, et qui va chercher Tom Skerritt, donc notre héros, pour lui dire, voilà, on a arrêté les gens qui ont fait du mal à ta grand-mère ou à ta mère.
Oui. Une séquence où vraiment, c'est une séquence d'agression dans une espèce de... une attaque dans une épicerie, et en fait, le marchand se fait tirer dessus, et la mère, qui a une espèce de bague, se fait couper le doigt à coup de sécateur. Pour se faire voler la bague. Donc c'est vraiment une séquence qui est genre, puis c'est la femme, la mère, c'est une grand-mère en fait, ouais, ouais. Je sais pas la cage, mais elle a bien 70 piges, ouais. Elle se fait plaquer contre le sol, elle se fait couper le doigt, et t'es là en mode ok, bon.
Et donc elle fait... devant son petit-fils. Et donc, pour revenir sur la scène dont on parlait, le chef des gangs afro-américains, il arrête deux malfrats, ils vont chercher Tom Skerritt et ils lui disent « Voilà, on a arrêté les types qui ont attaqué ta mère. » Et tout de suite, Tom Skerritt, il va vers l'afro-américain. Et évidemment, c'est un piège. Cet afro-américain n'a absolument rien fait. C'est en fait le blanc qui est le malfrat. Et donc, c'est vraiment tout de suite, on comprend le racisme du personnage, quoi. Belle découverte et qui apporte vraiment autre chose sur ce genre.
Oui, et je vois à l'instant sur Wikipédia, donc il faut pas faut prendre ça avec des pincettes, j'ai checké un peu, et en fait, apparemment, quand même, Lewis-Tig a été placé sur le tournage 2 semaines avant.
Ah, je savais pas.
Il t'a pas dit.
Non.
Il t'a pas dit ça, Lewis-Tig, quand tu l'as parlé, franchement. Et parce qu'il se fait vieux, hein, maintenant, c'est pour ça, il sait tout ce qu'il dit. Et par contre, ce qui est marrant, c'est vraiment, tu vois, il y a Laurentiis qui voulait apparemment pousser le côté héroïque du héros, alors que Tig, lui, voulait faire un personnage plus à la Raging Bull, donc un personnage un peu crasseux. Et en fait, à la fin, bah, il le dit que c'est que le film a un côté un peu schizophrène sur le point de vue.
Ouais, ouais, mais ça m'étonne pas. Bah, c'est ce que tu ressens, hein, ce que tu m'as dit. Ouais.
Et c'est vraiment, je trouve ça, mais moi, c'est vraiment bizarre, mais du coup, ça donne quelque chose de, en même temps, tu sais, du coup, peut-être que je reviens un peu sur ce que je disais avant. Est-ce que c'est mal, est-ce que c'est pas très bien écrit, ou est-ce que c'est, il y a eu des incohérences comment t'appelles
des combats,
des combats, des frictions entre producteurs et réalisateurs, ou est-ce que justement c'est ça qui donne beaucoup de fraîcheur aussi au film, comme il y a eu de la fraîcheur avec Lady in Red sur le côté féminin, là il y a un peu de fraîcheur sur le, peut-être le côté facho ou pas du film, avec justement un personnage qui est tout le temps, enfin même pas, c'est même pas le personnage qui est tiraillé, parce que le personnage en fait est une ligne droite de facho, je trouve, mais nous en tant que spectateur, on est vraiment, on arrive à être tiraillé entre effectivement la soif de justice, et en même temps on comprend bien que le gars a des a priori et a une ligne directrice qui n'est pas forcément, une ligne politique même je dirais, qui n'est pas forcément celle que j'apprécie. Et du coup, je pense qu'il y a, il y a quelque chose finalement d'assez, peut-être malgré lui, du coup, d'assez malin qui en ressort.
Film qui ressort donc le 26 avril dans la collection Make My Day, dans un très beau master Blu-ray et DVD avec des bonus de Yael Sadat passionnant et une présentation de Jean-Baptiste Auret très intéressante aussi et qui apporte un point de vue différent et complémentaire à celui de Yael Sadat. Popcorn et Banjo, la 7ème, c'est terminé. Je rappelle la sortie le 26 avril prochain de Fighting Back, film de Lewis Teague aux éditions dans la collection Make My Day. Et puis, Du Rouge pour un Truand et Alligator, l'incroyable Alligator, deux films qui sont disponibles en Blu-ray et Blu-ray 4K aux éditions Carlotta. Merci beaucoup, Charles. On se retrouve le mois prochain.
Avec plaisir.
Salut, mon vieux. Ciao, ciao.
Salut.
1, 2, 1, 2, 3, 4.
Quand la musique s'arrêtera, ramasse ton pistolet.
Tâchez d'éviter ces explosions d'injures et de mots orduriers qui ne peuvent que gâter une affaire.
Je n'ai jamais vu quelqu'un tuer un poisson comme vous l'avez fait.
Alors vous n'avez jamais rien vu.
Vous écoutez Aligre FM 93.1.